Jules Tellier, discours à la bien-aimée. Je suis né, ô bien-aimée, un vendredi 13e jour d'un mois d'hiver, dans un pays brumeux, sur les bords d'une mer septentrionale. Pourtant, les flots qui battaient ma porte étaient d'un vert pâle, pareils à un espoir incertain, et plusieurs espérèrent en moi dans mon enfance. Mais ils espéraient encore que dès longtemps déjà, je n'espérais plus. Le vent, s'engouffrant dans la cheminée, me disait des chansons lugubres, pleines d'un mystérieux ennui. Et quand je me promenais le soir sur la grève, les vagues venaient me saluer d'un après l'autre, monotone et isochrone, avec des bruits toujours aussi tristes, comme une succession de maximes de La Rochefoucauld. À l'âge où d'autres jouaient à la balle, j'ai grandi taciturne, occupé de chimères sombres, et à l'âge où d'autres commencent à songer à leur cousine, il se trouva que j'avais tant rêvé que le rêve avait comme usé mon âme. Si bien que le jour où je pus enfin posséder les objets souhaités, je n'en jouissais plus, ayant épuisé à l'avance, en les rêvant, tous les plaisirs qu'ils m'auraient pu donner. Cependant, me fit étudier sous des maîtres savants. Mais, avec de l'oreille, je devins un poète ennuyeux, avec de la faconde, un rhéteur médiocre, et avec de la mémoire, un grammairien détestable. Et je m'affaissais peu à peu, comme sous un poids invisible. Et un accablement obscur enchaîna mes membres et mon esprit, et je voyais toute chose dans un demi-jour vague et triste, comme à la fin d'une après-midi d'hiver. Ainsi j'étais, ô bien-aimé, quand je vous ai rencontré, radieuse et douce, sous des soleils plus chauds que ceux de cette mer septentrionale que je n'aurais pas dû quitter. Et vous vous êtes donné à moi par curiosité, par bonté d'âme, et par un souci de ce que vous donniez. Et je vous ai peu à peu inspiré une affection calme, faite d'habitude de la reconnaissance de la sensualité, souvent satisfaite. Et parce que je vous ai rencontrée radieuse et douce, il vous semblerait naturel que tous mes vœux fussent comblés. Mais voici que je passe la moitié des jours à vous traiter avec une cruauté brutale et à vous jeter des injures plus cruelles que toutes les injures fussent celles de mouton de mer qui fit pâlir Chrysippe, ou celle d'autruche déplumée qui fit pleurer Cornelius Fidus. Et le reste du temps, je sollicite en pleurant à vos pieds des pardons que vous m'accordez. Mais l'incohérence de ces façons vous étonne. Il vous semble avec raison que ce n'est point là une vie, et vous me demandez pourquoi je souffre enfin, puisque vous m'appartenez et que vous ne me trompez pas. Mais je souffre, beau bien-aimé, pour beaucoup de choses, et d'abord pour songer trop que vous m'êtes fidèle, à la vérité parce que les occasions vous manquent, ou, si vous l'aimez mieux, pour ne pas me faire de peine, et parce que mon caprice est que vous le soyez, mais que vous ne sentez point par vous-même le besoin de l'être, et qu'il n'y a en vous aucun sentiment intime et personnel qui vous oblige à le rester. Car rien n'est plus vain et plus irritant qu'une fidélité physique qu'accompagne une perpétuelle infidélité morale. Et que m'importe que votre corps soit à moi seul, si en esprit vous ne cessez pas un moment d'appartenir à tous. On voit, ô bien-aimé, passer par des quartiers déserts des tramways qui n'ont qu'un voyageur. Mais ces tramways ne sont pas pour cela des fiacres, ni surtout des voitures de maître. Et encore, qu'il ait ses aises, si le voyageur unique est l'esprit morose, il sentira quelque ennui à penser qu'il pourrait ne pas avoir, que rien ne lui appartient, que la chance heureuse dont il est favorisé n'est qu'une chance, et ne lui donne nul droit, et qu'après tout, comme un autre aussi bien lui pu faire, il est tout bêtement monté pour ses 15 centimes. Et puis, il est toujours triste d'aimer, quand on a passé l'âge où l'on croit à l'amour éternel. Car l'enfant n'y songe pas, mais le sage sait bien que le chat qu'il caresse mourra, et qu'il en caressera d'autres ensuite qui mourront de même. Et celui serait un tourment s'il avait pour son chat une affection plus profonde. L'amour aussi, dans l'ordre naturel des choses, est fait pour vivre moins que l'homme dont il habite le cœur, comme les chats qui habitent nos maisons pour mourir avant nous. Et rien n'est plus triste que cette disproportion fatale entre la durée de notre existence et celle de ce que nous mettons à plus haut prix qu'elle. Des jours viendront où je ne voudrai plus de vous. Je voudrais pouvoir vouloir toujours, mais je sais que ma volonté sera vaincue et impuissante. Et le savoir est ma torture. Car si je ne vous veux plus, je vous laisserai donc à d'autres. Je ne veux pas que d'autres vous possèdent. Belle consolation de me dire que cela ne me sera alors indifférent. Je réponds que cela ne me l'est point maintenant. Il me sera indifférent aussi d'être mort. Cela n'empêche pas d'être gêné à l'idée qu'il faudra mourir. Ces douleurs, ô bien-aimé, je ne vous demande point d'y compatir, car tout est vain et je suis ainsi que faute de pouvoir être autrement. Et de quel front vous demanderai-je de la compassion, moi qui ne suis pas après tout bien sûr de vous aimer, qui sais mieux que personne ce qu'ont de convenu mes tristesses et mes violences, et qui me fait parfois l'effet d'un médiocre comédien jouant l'éternel mélodrame de l'amour. Mais si de l'aguse part, j'envie du moins votre impassible et olympienne sérénité, ou plutôt je l'envie parfois, et parfois aussi, je la prends en dédain pour tout ce qu'elle commet et contient d'indifférent, égoïsme et d'inconscient de la tristesse des choses. Car toutes les impassibilités ne sont point nobles également, mais il y a dans la composition desquelles entre des choses laides. Et il est aussi facile de distinguer celles-là des autres que de distinguer parmi les glaçons ceux qui sont formés d'une eau sale. Ainsi je me plaignais à la bien-aimée, et elle écoutait mes plaintes avec une patience d'autant plus méritoire qu'elle n'en comprenait pas un mot et qu'elle les jugeait stupides. Car elle est tout à fait étrangère à cette fureur de se tourmenter en songeant aux choses attristantes. Même en y pensant bien, elle a fini par se persuader que j'étais ainsi que pour avoir trop lu les poèmes tristes et compliqués de M. Sully Prudhomme, et en a conçu une haine farouche pour cet innocent académicien. Ma bien-aimée jugeait mes plaintes stupides, et moi-même, qui tournais les 10 ans, les jugeais stupides comme elle. Pourquoi viens-je à présent de les cadencer suivant un rythme plus subtil que ceux des vers? Sinon parce que, la bien-aimée n'étant plus là, le désœuvrement m'avait pris, et parce qu'aussi je me sentais incliné à écrire de tristes choses en ce soir hostilement orageux d'un théorique printemps où les vents destructeurs de promesses arrachent une par une les délicates grappes blanches des cerisiers, tandis que sous le ciel lourd et bas, l'eau du fleuve rampe, couleur de terre.